Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes the Podcast. Alors cette semaine, on attaque un film un peu plus cool que celui de la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, on vous a parlé de Tenet. Vous avez bien remarqué qu'on n'avait absolument rien compris. Je vous rassure, comme je n'ai pas vu le film, j'ai toujours rien compris. Mais c'est pas grave, on va prendre justement un film qui n'a rien à voir avec la choucroute et qui surtout est beaucoup plus clair. Et je suis avec mon ami Julien Charpentier pour en parler. Alors Julien Charpentier, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Ouais. Je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, mais je pense qu'il y en a quand même qui te connaissent.
Possible.
Voilà. Alors Julien, c'est un ami à moi, on se connaît depuis maintenant quelques années, quoi.
Une petite dizaine, ouais.
Voilà, et en gros, Julien, en fait, vous l'avez connu. Alors, est-ce que je dois dire le surnom que t'avais ?
Non, t'es pas obligé.
Voilà. Mais si tu le dis pas, je le dis pas. Tu vois, voilà. Vous l'avez connu sur Game One, puisque en fait, tu présentais une émission où tu parlais de jeux vidéo. Enfin, tu faisais partie d'une émission où tu parlais de jeux vidéo et aussi de DVD, Blu-ray, sortie de cinéma, quoi.
C'est ça. C'était il y a un long moment maintenant, puisqu'on a fait ça entre 2000. Enfin, j'ai fait ça entre 2002 et 2005, pendant laquelle effectivement, on avait une bi-quotidienne, donc de où on parlait de l'actualité jeux vidéo. Une fois par semaine, on avait une petite rubrique DVD.
Voilà. Donc le cinéma, tu connais.
C'est ce qu'on J'aime bien.
Voilà, t'aimes bien le cinéma. Et Julien a aussi écrit récemment l'épisode de Stéroïdes en vidéo sur Au revoir à jamais et Shane Black.
C'est ça, on a travaillé ensemble tous les deux sur ce projet parce que Shane Black, pour nous, c'est un profond génie de l'écriture et c'est toujours bien de le rappeler, on ne le dira jamais assez. Et du coup, on s'est bien amusé à faire ça et à rappeler à quel point ce film, alors qu'il a l'air de pas grand-chose, est quand même un modèle d'écriture.
Voilà. Et donc, en fait, on va parler d'un film qui, je sais pas si on peut dire que c'est un modèle d'écriture. Mais c'est un film qui est beaucoup plus simple pour le coup à appréhender que tu as choisi. Alors, je tiens à préciser quand même un truc, c'est que Julien, on s'est beaucoup rapproché aussi à une époque parce qu'on a le même goût pour les gros films de bourrin décérébré.
Pas du tout.
Voilà. Et en fait, il m'a proposé quelques films pour apparaître dans Stéroïdes de Podcast. Ça fait un moment qu'on en parle, en fait, que tu viennes faire une panouille avec nous, quoi. Et là, tu m'as sorti des films absolument pas bourrins du tout, dont Ronin,
ouais,
de John Frankenheimer.
Ouais.
Alors, déjà, moi, j'ai envie de te poser cette question. Pourquoi ? Pourquoi Ronin ? Pourquoi ce choix ? Pourquoi
Ronin ? En fait, tout simplement parce que donc Ronin, c'est un film de 98, mm-hmm, réalisé par Frankenheimer. Mm-hmm. C'est l'un de ses derniers films. C'est, à mon sens, l'un des bons dans la dernière période de sa vie. Et je trouvais ultra intéressant de reparler de ce film qui est un petit peu oublié, qui a pourtant un très joli cast. Une histoire, alors tu dis que c'est pas le film le mieux écrit du monde, c'est pas faux, mais il y a aussi des choses en termes d'écriture qui sont ultra intéressantes à fouiller, comme le principe du MacGuffin, sur lequel on reviendra sans doute,
ouais,
que je trouve, si on ne comprend pas ce qu'est un MacGuffin, on regarde Ronin et à la fin on ne peut qu'avoir compris. Et ça c'est plutôt assez génial, je trouve. Et puis il y a ce gros avantage aussi de faire on est toujours en train de dire, c'est compliqué de faire un film d'action à Paris parce que dès qu'on voit une voiture de police parisienne, ça nous fait marrer. Dès qu'on voit un type en képi, c'est moins crédible qu'un américain. Alors qu'au final, quand tu vois Ronin, tu t'aperçois, alors c'est vrai qu'ils ont un budget qui est quand même relativement conséquent, mais tu t'aperçois...
À l'époque, c'était 55 millions de dollars.
C'est exactement ça, ouais. je regarde ma fiche.
Tu regardes ta fiche.
Voilà, déjà. 55 millions de dollars, et c'est vrai que c'est un budget que la France ne peut pas se permettre, mais on a quand même un spectacle dans les rues de Paris, ou dans les rues... alors, c'est c'est à Arles, hein, je crois.
Il y a Arles et il y a Nice.
Qui est ultra étonnant, et en ce qui me concerne, je trouve ultra jouissif pour un film qui se passe en France.
Alors, le principe, tu connais l'émission puisque tu nous écoutes aussi, hein,
ouais,
à côté. Le principe, c'est qu'on spoil.
Ok.
Donc on s'en fiche, en fait. Donc les gens le savent, hein, puis c'est un film qui a maintenant 22 ans. Donc on n'a pas trop de soucis à vraiment raconter les détails, justement pour expliquer ce qui nous intéresse dans le film, etc. Est-ce que tu peux pitcher le film très vite ?
Oui, c'est relativement simple, en fait. C'est l'histoire d'une bande de mercenaires à qui on dit, ok, on doit récupérer une valise. Ils posent la question de « mais c'est quoi cette valise ?» On leur répond « vous n'avez pas besoin de le savoir, vous devez la récupérer quoi qu'il en coûte. Et tu vas suivre au fur et à mesure cette équipe de mercenaires qui va d'abord chercher à récupérer cette valise. Et ensuite, évidemment, il va y avoir quelques petits détours et cheminements parce qu'il va y avoir des trahisons. Ce sont quand même des mercenaires avant tout appâtés par l'argent. Et donc, ils vont se trahir les uns les autres pour récupérer cette valise.
Voilà. Donc, alors, et puis, il y a un micro-twist final. Alors, est-ce qu'on le spoil ? On verra, on décide ou pas. Moi, je pense que c'est un truc qui est assez intéressant parce que je pense que ça ouvrait sur une volonté de franchise qui n'a pas eu lieu. C'était un gros morceau à l'époque, hein, le film pour MGM, United Artists, parce que bah justement, ils avaient effectivement un cast assez impressionnant, comme tu as dit. Donc il y a Robert De Niro, il y a Jean Reno, il y a aussi pas mal de gens qui étaient, on va dire, des vedettes en devenir. Hein. Bon, tu avais Sean Bean qui était déjà un petit peu connu parce qu'il était apparu dans quelques gros films d'action américains. Mais tu avais aussi.
Spoiler alert, dans celui-là, il survit.
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est un des rares, d'ailleurs. Ouais. Je pense que tous les mecs, en fait, si vous avez vu des vidéos de Sean Bean en train de crever, comme il y a des espèces de mash-up, là, des trucs comme ça, des super cuts, comme on dit, bah, et celui-là, il n'est pas dedans. Donc en fait, si vous ne connaissez la carrière de Sean Bean que à travers ça, vous n'avez jamais vu Ronin. Vous n'avez jamais vu un extrait de Ronin. Ceci dit, il y a une scène très intéressante avec lui là-dessus, je trouve, et qui est une scène alors, qui, pour moi, me permet d'ouvrir sur une notion en fait, du film. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, qu'à la base, un scénar comme ça, et je veux dire le pitch, la façon dont il a pu être écrit avant d'être récupéré par un autre scénariste de renom,
sous pseudonyme.
Voilà, sous pseudonyme, c'était en fait un scénar à la Steven Seagal, quoi. C'est-à-dire que t'es quand même pas loin de te dire, bon, en fait, on va enquiller les poursuites de bagnole, on va enquiller les mecs qui se tirent dessus et qui, bon, plus ou moins s'enfilent, comme tu dis, tu vois, c'est-à-dire qui se trahissent les uns entre les autres, quoi. Et en fait, il y a quelqu'un qui s'est pointé au milieu, à qui on a dit, bon, c'est David Mamet, en l'occurrence, qui signe sous pseudonyme. On lui a dit, tu vas réécrire un peu le machin, parce qu'en fait, il faut le rendre un peu plus, enfin, faut attirer des gens comme Robert De Niro pour jouer ce rôle-là plutôt que Steven Seagal, on va dire, si tu veux, quoi. Et notamment, en fait, Sean Bean, il y a une très belle scène avec lui, je trouve. Qui est la façon dont De Niro va le coincer
absolument,
pour le faire sortir de l'équipe.
La tasse à café.
Avec la tasse à café, voilà. Et en fait, le truc, c'est que ça, pour moi, mais c'est tellement évident que c'est un apport de Mamet que, voilà, c'est limite comme le nez au milieu de la figure. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, en fait. Parce que je pense que ce truc-là, c'est que l'écriture de Mamet sur le film, c'est ce qui le rend, on va dire, un peu plus... crédible jusqu'en fait à jouer avec la notion de bon bah en fait quelles sont les vraies raisons fondamentales de cette opération en gros donc là on arrive au spoiler de fin mais est-ce que la question c'est est-ce qu'on le spoil ou pas, est-ce qu'il y a une question dans ce que je viens de te poser? Non, il y a pas de question, mais pas, c'est pas grave, tu peux quand même rebondir.
Il y a pas vraiment de question, donc rebondir du coup c'est bien hyper facile. En tout cas, David Mamet, au cas où, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un dramaturge américain qui a notamment écrit La prisonnière espagnole. En ce qui me concerne, je vous conseille parce que c'est vraiment une machination plutôt bien faite. Et c'est un réalisateur qui, une fois, s'est aussi essayé au film d'action avec un petit film oublié qui s'appelle Spartan et qui a quelques points communs avec Ronin dans la mesure où on a cette approche de l'action qui est très directe. Quand Mamet est vraiment un dramaturge, hein, donc un homme à base de dialogue, quoi, c'est quand il se penche sur un film d'action, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'en fait, il va se dire comment je fais un film d'action. Il ne veut pas juste rajouter des dialogues. Et cette scène que tu mentionnais de la tasse à café, en soi, elle est ultra intéressante parce que c'est bel et bien, on a des mercenaires qui sont tous des gros professionnels, ce qui sous-entend que ce qui les intéresse, non seulement c'est l'argent, qu'ils n'ont pas de valeur, entre guillemets, et que ce qu'ils vont chercher, c'est avant tout un chèque à la fin. Et tout d'un coup, t'as ce gars qui est interprété par Sean Bean, qui joue le gars qui est trop à l'aise dans ses pompes, alors qu'on voit relativement clairement qu'il n'est pas du tout à l'aise dans ses pompes, et on va avoir une scène, effectivement, moi je préfère qu'on la détaille pas parce qu'elle est vraiment ultra intéressante, mais avec une simple tasse à café, on va emmener un personnage dans ses derniers retranchements. Et effectivement, je suis assez d'accord sur le fait que ça, c'est un apport de dramaturge.
Mais je pense qu'il y a il y a cet apport-là, je pense qu'il y a aussi la façon dont, par exemple, si tu veux, il va jouer avec la notion de l'écriture des scènes de poursuite en bagnole. Parce que le film est connu pour ça, en fait. Et d'ailleurs, il a été beaucoup vendu sur ça, en fait. Il a été vendu sur l'idée que le film est une longue poursuite, ce qui est vrai jusqu'à un certain degré, et surtout Frankenheimer était connu aussi pour ça, c'est-à-dire que Frankenheimer, au moment où on l'attrape à l'époque de la sortie de Ronin, en fait au moment où il s'est retrouvé sur ce projet-là, il faut quand même préciser que c'était un cinéaste assez comment dire, oublié, qui s'est refait à la télé avec notamment Les Révoltés d'Attica, un film avec Samuel Jackson, Et en gros, un film de prison, et avec une mutinerie, enfin une révolte.
Un film de télé HBO quand même. Hein.
Oui,
c'est
voilà,
pas, c'est pas non plus votre téléfilm de ABC. Quoi.
Voilà, c'est ça. C'est surtout dans les années 90. Quoi. Et en fait, juste après, il s'est retrouvé sur une très grosse prod à remplacer le réal au bout de deux jours de tournage,
ouais.
Qui était sur l'île Dr. Moreau. Alors, moi, un film pour lequel j'ai une énorme déviance, évidemment, mais qui est un film, enfin, je veux dire, qui a un très gros budget, qui s'est planté. Donc, le voir revenir en fait sur un film d'action. Comme Ronin, avec un tel cast, etc., etc., il y avait des très très grosses attentes. Et je pense que le film a un peu déçu à l'époque de sa sortie, précisément parce qu'en fait, il était, entre guillemets, pas tellement plus que la promesse de vente, en fait. C'est-à-dire une grosse poursuite gigantesque dans les rues de France, en fait.
C'est vrai que c'est un film, enfin, c'est méga direct, quoi. Ça ne s'embarrasse pas avec des problèmes de scénario. Mis à part ce dont je vous parlais, qui est le MacGuffin, sur lequel je vais revenir. Il y a toujours des fois où on se dit, mais en fait, je comprends pas bien ce que c'est qu'un MacGuffin. Un MacGuffin, c'est juste un petit truc qui fait avancer l'histoire, que ce soit important ou pas. Dans ce film-là, ce qui est génial, c'est que le MacGuffin, c'est la valise. Ils sont tous engagés pour aller récupérer une valise. On ne saura jamais, y compris à la fin du film, ce qu'il y a dans cette valise. Et ce que ça fait, ça prouve donc bien que malgré le fait que l'histoire avance avec cette valise, que c'est l'enjeu principal du film, en fait, on se fout totalement de savoir ce qu'il y a dedans. Et là où ça devient un MacGuffin que je trouve particulièrement brillant, c'est que ça ne fait que renforcer la psyché des personnages. Eux non plus, Robert De Niro demande à un moment « qu'est-ce qu'il y a dans la valise ?» Et la commanditaire, qui est jouée par Natasha McEnlone, dit « vous n'avez pas besoin de le savoir ». Et De Niro fait « en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'il y a dedans ». C'est, ça explose. Est-ce qu'il y a un gars qui est attaché à la valise? Est-ce que s'il y a le gars attaché à la valise, on peut aller jusqu'à lui enlever la main pour être sûr qu'on récupère la valise? Donc ce qui l'intéresse, c'est la marchandise. Et je trouve ça absolument brillant parce que quand tu vois ça, tu vois une évolution du personnage à travers sa relation à ce MacGuffin.
Jusqu'au point de demander d'ailleurs finalement un vrai salaire pour faire le job, puisque vous ne voulez pas me dire ce que c'est, j'estime qu'il y a un risque. Donc en fait, je veux être payé 100 000 balles.
Ouais, c'est vrai, la scène est ultra intéressante parce qu'en fait, c'est à la fois un coup de bluff et un coup de professionnel.
Ce que tu essayes de dire en fait par rapport à ça, c'est que du coup, en fait, le MacGuffin, qui est à la base un enjeu qui pourrait être important pour le spectateur, c'est juste une démonstration. Alors ça, c'est un truc qui a été mis en place par Hitchcock, hein, il faut le préciser. Quoi. C'est d'ailleurs, le terme vient de lui. C'est en fait juste une question en fait, pour faire révéler les problématiques, enfin pas les problématiques, mais les problématiques des personnages, on va dire, et leur caractérisation scénaristique, qui eux font vraiment avancer l'intrigue, en fait, au final.
C'est ça.
Très bien. Merci, monsieur. Merci, professeur Charpentier.
Ben, je vous en prie.
Qu'est-ce que tu penses des scènes d'action? Parce que alors, moi, il y a un truc qui est assez intéressant en voyant le film, c'est que j'étais un peu resté à l'époque sur ma faim, en me disant, ok, alors sur les poursuites, en fait, plus sur l'aspect franco-français. C'est-à-dire que, en gros, je me disais, mais attends, c'était complètement stupide. Alors, moi, j'avais trouvé sympa le film, mais je n'avais pas déliré dessus non plus. Et en le revoyant, je me disais, il y a quand même ce truc, ça fonctionne très très bien. Je m'étais dit, bon, attends, les mecs, ils partent de République, ils arrivent à Bir Hakeim, et puis ils repartent sur dans le c'est n'importe quoi, en fait, la topographie des lieux, tu vois, quand
c'est
tu connais Paris, tu vois. Mais en vrai, quand tu réfléchis, tu t'en fous complètement.
Oui.
Parce que ce qui est hyper bien foutu dans la poursuite, je trouve, à la fin, c'est la progression narrative. C'est-à-dire, donc déjà, tu as le premier truc où, en termes de cascade, tu as le sentiment que c'est De Niro ou Natasha McEnlone qui sont en train de conduire la bagnole.
Ouais, et ça, c'est un truc qu'ils ont fait en faisant simplement des commandes inversées, comme sur des bagnoles auto-école. Ou alors, il y avait le célèbre couillon qui est sur le toit en train de conduire et qui est hors champ. Donc, ils ont utilisé ce genre de tactique parce qu'évidemment, on était bien avant les images de synthèse.
Voilà.
Donc, c'est vraiment de la cascade.
T'en avais, mais là, le film, il est plus en dur quand même.
Là, c'est que du dur.
Voilà.
Quasiment.
Et surtout, il y a vraiment une notion. Alors, avec, je pense, quelques trucs qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir dans une poursuite. En France, qui est en gros l'idée que, par exemple, tu as un pont en construction ou ce genre de choses qui, finalement, à Paris, c'est quand même difficile à trouver et ils se le permettent là, en fait, puisque ça se termine plus ou moins sur ça, en fait, sur un pont en fait en construction et une bagnole dévie. Mais entre temps, tu as eu une vraie progression avec notamment, en fait, moi je trouve que ça reste encore assez impressionnant, mine de rien, conduire en sens inverse sur l'autoroute à Paris. Et effectivement, avec une vraie progression dans le danger et dans la capacité de tenir le truc. Et ça, je m'étais dit, ah merde, putain, en fait, on avait peut-être plus l'habitude de voir plus de poursuites à cette époque-là dans le cinéma, et du coup, c'était peut-être passé un peu à côté. Mais il y a une âpreté, un fonctionnement vis-à-vis de ça, qui est plutôt efficace. Après, moi, je mettrais un petit bémol sur des fois, il y a un peu trop de plans de mecs qui font genre, oh, il y a une bagnole qui passe devant moi et je l'évite à deux trucs près, quoi. Avec notamment du cast bien français qui joue la surprise, quoi.
Je te reconnais bien là.
Voilà. Mais à part ça, non, mais bon, c'est un peu marrant, mais c'est vrai qu'il le surexploite un petit peu. Mais voilà, c'est moi, j'ai trouvé ça, même en termes d'écriture, en fait, de scènes d'action et de progression, plus efficace que dans mon souvenir, quoi.
Mais si je me souviens bien, et arrête-moi si je me trompe, parce que je pourrais me tromper, les cascades, c'est Rémi Julien, non ?
Je crois, oui.
Ouais, donc, j'irais Rémi Julien, qui était un grand, grand, grand monsieur de la cascade, qui a notamment travaillé sur énormément de James Bond, c'est-à-dire que ça avait beau être un Français, il était engagé sur les James Bond, parce que c'était l'un des meilleurs du monde, et c'est vrai que bah, ces cascades-là, avoir cette poursuite où on évite les bagnoles de justesse, où il y a un nombre d'accidents qui est relativement conséquent, enfin, il y a vraiment... Il y a la... On reconnaît le style de Frankenheimer, c'est-à-dire que c'est brut. Il essaie pas d'embellir, il essaie pas d'exagérer. On te donne je t'envoie ce que j'ai sur image, et ensuite je le travaille avec le montage juste pour que ce soit plus efficace. Mais globalement, il y a pas d'emphase dans ce qu'il fait. C'est très brutal, ça va directement au centre. Et du coup, ouais, les poursuites, il y en a pas tant que ça non plus. Hein. C'est pas un film d'action permanent. Il y a une énorme poursuite à Paris qui est un morceau de bravoure. Enfin, moi, s'il y avait une liste des meilleures scènes de poursuite de l'histoire, elle serait dedans, c'est sûr.
Ah oui.
Pour moi, oui, parce que justement, son cadre est pour moi très inhabituel, et du coup, c'est vrai que c'est plaisant de voir un truc qui se passe dans des rues que tu connais.
Mais d'ailleurs, en fait, il y a un truc qui est hyper intéressant, je trouve, dans le film, et tu parlais d'aspect brut, tu vois, mais c'est vrai que un ou deux passages qui sont les plans, on va dire, obligatoires de comment on va montrer, en fait, Paris. Donc tu as la scène, la tour Eiffel, avec une scène d'embuscade, tu vois. Mais bon, déjà, il n'en fait pas des caisses non plus avec ça, c'est pas... voilà. Mais le deuxième truc, c'est qu'il te montre en fait un Paris que tu n'as pas l'habitude de voir dans le cinéma américain.
Tu veux dire qu'il nous montre un Paris crade, quoi. En fait.
Crade, ouais. Et en fait, le truc... Non, mais c'est intéressant, parce que... et pas que Paris, parce que Nice aussi, si tu veux, il y a quand même un côté un peu vétuste dans certains endroits de la ville de Nice, tu vois. Il te montre les petites ruelles de Nice, ça c'est connu, hein, la vieille ville. Mais pour le coup... Et... Nice, c'est encore différent, parce que un ou deux ans avant, il y avait eu un peu de tournage, en fait, là-bas. C'était à une époque, dans les années 90, où ils accueillaient un peu les films américains. Il y avait notamment Risque Maximum de Ringo Lam avec Van Damme, où tu avais une poursuite dans Nice au début, justement, en fait, dans les petites ruelles. Et bon, qui est pareil, un film assez sympa, je pense, un des bons Van Damme, on va dire, où il a essayé de faire un peu autre chose que du Van Damme, on va dire, je dis ça, mais les gens, ils vont encore nous taper dessus, parce qu'ils vont dire, ah, mais vous dites du mal de Van Damme, mais on aime bien Van Damme, hein, c'est même pas la question, c'est juste que c'est vrai qu'il faut reconnaître que, en plus, je suis en train de m'en taper plein en ce moment, et il faut reconnaître qu'il y a des moments où ça se ressemblait un peu beaucoup, quoi, en fait.
Il a eu, comme tout le monde, il a eu des carrières avec des hauts et des très très bas.
Voilà, et le truc, c'est que du coup, il y a un côté un peu vétuste, et ce qui change un peu, c'est-à-dire que moi, par exemple, je m'étais dit, a posteriori, en fait, la dernière grosse poursuite dans Paris qu'on a vu au cinéma dans un très gros film, c'était Mission Impossible Fallout.
Ouais, Fallout, ouais.
Et en gros, moi, j'avais un énorme problème avec cette poursuite. C'est-à-dire, je la trouve plutôt bien foutue en soi. C'est-à-dire, je peux pas dire qu'elle est mal faite, mais pour moi, c'était la Macronie. C'est-à-dire, on est en train de te montrer Paris avec les plus beaux, tu vois. Je veux dire.
Mais c'est étrange. Je trouve ça intéressant que tu réagisses comme ça, parce que cette conversation-là, on l'avait déjà eu un peu hors champ.
Entre nous.
Ouais. Ouais. Mais en fait, moi, je trouve ça ultra intéressant, parce que quand tu regardes souvent les films américains qui font une poursuite dans New York, ils te montrent toujours des endroits qui ont aussi ce quelque chose-là. Mis à part des exceptions comme un William Friedkin qui va te faire une poursuite en plein milieu du métro aérien new-yorkais, la plupart des poursuites hollywoodiennes montrent aussi des endroits que tu connais, qui sont beaux, qu'on peut mettre en valeur avec la caméra.
Oui, mais là, en l'occurrence, en fait, le truc, c'est que, alors peut-être que c'est une question de connaître Paris et de savoir qu'en fait, la plupart du truc, ce n'est pas l'aspect touristique, on va dire, si tu veux. Ce qui est peut-être moins le cas, j'ai pas cette proximité-là avec New York et ce genre de choses. Hein. Mais et là, j'assume, entre guillemets, ma part de subjectivité. Mais après, il y a un truc, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de films dont les poursuites se déroulent à New York, à Los Angeles, où tu veux, qu'à Paris. Donc en fait, au final,
si tu veux,
exploites un peu tout
Je peux prendre une série de films que t'adores, Fast and Furious. Le 6 se passe à Londres. Bah, les trois quarts des scènes, la scène de poursuite se passe que dans des endroits qui sont beaux. Il n'y a pas le moment où... Alors que Londres,
ouais,
des endroits sublimes,
Londres,
mais des endroits très moches.
Ouais, ouais. Et Londres, en fait, il y a encore un autre problématique, c'est que Londres, en fait, les rues de Londres sont très compliquées, je pense, à manœuvrer. Donc pour faire une poursuite, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. C'est-à-dire que même il y a des films où il y a eu des poursuites en Angleterre, en fait, qui ont été faites. c'était moins... en fait, ils sortaient du cadre de Londres pour les faire ailleurs, quoi, si tu veux. Donc, c'est marrant parce que ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec Edgar Wright, où justement, je lui avais posé la question...
Name dropping présent.
Name drop, excusez-moi, tu vois. Bon, après, voilà. Je lui avais posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi, en fait, par exemple, est-ce que ça serait possible de faire Baby Driver, en fait, à Londres ? Et il m'avait dit... Non, les poursuites, elles sont compliquées, quoi. Ou alors, c'est complètement fantasmé, comme dans, justement, Fast and Furious.
Oui, c'est dès que tu chantes...
Il m'a sorti cet exemple-là, justement.
Bah, tu chantes, c'est-à-dire que c'est ce que tu disais à propos de Paris dans Rolin, tu tournes une fois et, en fait, t'as bougé de 25 quartiers, quoi.
Ouais, c'est ça. Et du coup, le truc, c'est que cet aspect-là, finalement, il est vachement intéressant, je trouve, dans Rolin, parce que c'est ce qui donne un petit peu le côté... C'est-à-dire, en fait, mine de rien, jusque dans la scène finale, par exemple, dans le Zénith,
en fait,
avec le côté un peu... Ça ressemble à Paris.
Ah oui,
mine de rien, en fait, t'as un vrai truc autour de... on voit les beaux quartiers de Paris, on voit les quartiers pourris, on voit, en fait, les trucs populaux, on voit les trucs... Et mine de rien, c'est alors, je pense que ça participe au fait que le film n'a pas trop marché, parce que c'est un film qui n'a pas trop cartonné aussi aux États-Unis.
Il nous a fait un 70 millions de recettes monde, ce qui, pour un budget de 55, n'est pas un échec, mais c'est pas un succès.
C'est pas un succès, et surtout, par contre, je pense que c'est un film qui s'est bien vendu en vidéo.
Oui.
Donc là-dessus, ils ont ce truc-là.
Puis ça se repère vite, hein, quand t'as un nouveau format et que un film sort systématiquement dans ce nouveau format, sans même qu'il fasse un remaster, en général, c'est que c'est un film qui se vend.
Voilà, et le Blu-ray était sorti assez rapidement à l'époque.
Ouais, et y a rien dessus, et la copie est moyenne.
Ouais, voilà. Mais du coup, en fait, c'est ces aspects un petit peu, comment dire... brut qui font qu'en fait le film est encore intéressant 20 ans après. C'est-à-dire qu'il y avait cette notion, parce qu'en plus il vient de là, hein, Frankenheimer, il y avait cette notion de faire un espèce de film 70s. Ce qu'ils ont réussi à garder, je trouve, quand tu regardes le film, même quand il est sorti à l'époque en salle en 98, mais quelque part, en fait, on se disait, bon, il y a un manque de sophistication qui est quand même assez flagrant quand tu es en train de regarder le film, et qui, mine de rien, en fait, est plutôt dans sa faveur, parce que je trouve que le film vieillit plutôt bien quand on le revoit, quoi.
Je suis assez d'accord, mis à part, évidemment, les vêtements et les bagnoles, qui forcément...
font 90, tu
dis. Voilà, font années 90. Mmh. Je trouve que pour le reste, le film tient très très bien la route, sans jeu de mots, désolé, parce qu'on parle beaucoup de cette poursuite, mais même la séquence d'action dans Arles, dans les arènes de Arles, c'est un setting qui est hyper original. Alors, et puis il est utilisé de façon, c'est pas toujours une gestion de l'espace absolument incroyable, mais t'as quand même cette volonté,
c'est carré.
Voilà, de carré, puis tu mets des gens qui visitent au milieu, ce qui crée d'autres mini-moments où en fait les passants deviennent un enjeu aussi, même s'il est micro.
Ah mais là c'est plus que ça, attends, je suis désolé, mais là pour le coup faut aussi le préciser, c'est un film où t'as quand même pas mal de passants qui se prennent des bastos perdus, tu vois, mais genre,
brut.
Ah ouais, elle a rien à foutre.
Ce sont des mercenaires, ils n'ont pas peur, les mecs, donc s'il faut tirer dans le tas, ils tirent dans le tas.
Ouais, t'as des gars, et ça, je pense que c'était encore dans la volonté de faire un truc très 70s, ou quand Frankenheimer, je pense qu'il s'est pointé sur le projet, il a dit, j'ai le droit de... Parce que moi, je vais le faire, hein, buter des innocents dans le film et tout, avec la problématique morale qui peut se poser souvent quand on regarde un film comme ça.
T'as et une en fait, scène, fout, lui, t'as une scène toute entière qui est tournée autour de ça, qui est la scène de Stellan Skarsgård, qui joue un des mercenaires, qui se retrouve avec un des commanditaires et qui lui dit « Ok, je veux plus d'argent, et si tu ne me donnes pas plus d'argent, tu vois la fillette là-bas qui est en train de jouer. Je vous fous une balle dans la tête. Je sais pas qui c'est, cette môme. Je m'en fous. Mais si tu ne fais pas ce que je te demande... Elle, je la bute, donc imagine ce que je te ferai à toi. Mmh. Et en fait, ça aussi, c'est prendre en compte la violence de ces gens-là pour nourrir le film. Moi, je trouve ça très bien.
Oui, sauf que alors, c'est pareil, c'est ce que j'allais dire sur cette scène. Je pense qu'il y a l'écriture, hein, la façon dont elle est tournée, en fait, est plus intéressante, à mon avis, parce que je pense que Mamet a justement repris le truc pour en créer un vrai truc, une vraie essence dramaturgique, en faire ressortir l'enjeu, alors qu'en fait, c'est une scène à Steven Seagal. Quoi. Si tu réfléchis, ça pourrait tellement être dans un Steven, tu vois, elle a rien à foutre. Que...
Je vois pas où est le problème, puisque Steven...
On adore Steven, bien sûr, mais après, ce que je veux dire, si tu veux, c'est que c'est quand même du cinéma de gros bourrin, et mine de rien, un truc comme Ronin, c'est quand même un film qui est beaucoup plus bourrin que son cast classieux laisse sous-entendre, mais... C'est un film qui a effectivement un peu plus de finesse que ce que son sujet laisse sous-entendre.
Voilà,
c'est la distinction, en fait, je trouve.
Je suis assez d'accord. C'est un film qui est, au final, très carré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui dépasse dans l'écriture. C'est vrai qu'il n'y a pas de moment où tu vas faire « Oh la vache !» Alors ça, c'est ultra bien vu, mis à part peut-être l'explication du MacGuffin dont on a parlé tout à l'heure. Mais globalement, il n'y a pas non plus un moment où tu fais « Non, mais ils ont fait n'importe quoi. Sérieusement, tu ne peux pas faire. » Il n'y a pas de moment où tu dis « Ce personnage-là ne ferait pas ça. » Et pourtant, David Mamet, même s'il a réécrit le film, si vous voyez le film ou revoyez le film en DVD, en Blu-ray ou ailleurs, Il ne sera pas au générique, hein. Parce non, parce qu'il a refusé de signer. Hein.
Attends, il faut que je retrouve son pseudo.
Attends, je l'avais, c'était Richard quelque chose.
Ouais, et...
Richard Weiss.
Ouais, et je pense qu'en fait, bah, tout bêtement, il n'est pas satisfait du truc. Mais après, c'est
Alors, j'avais lu des rumeurs, je ne sais pas si elles sont confirmées ou pas, qu'en fait, il n'était pas très content de devoir partager
le crédit,
parce qu'il avait quasiment intégralement réécrit le scénario du scénariste original qui s'appelle J.D. Zick.
Qui a écrit des Steven Seagal.
Bah
c'est pour ça que je.
C'est pour ça que tu insistes autant. Ouais, ouais. Putain, c'est génial.
C'était inceptionné.
C'est ça. Ça.
Ouais. Mais après, je pense qu'il n'était pas content. Mais ça, c'est. On va peut-être te donner cette info rapidement hein, pour ceux qui nous écoutent. Mais ça, c'est pas de son fait. C'est-à-dire que ce n'est même pas du fait du studio. Ces règles-là, elles sont mises par la Writers Guild of America, la WGA. Et en fait, c'est eux qui décident après arbitrage. Sur à quoi ressemble le film par rapport au scénar d'origine, on va dire, au pitch d'origine, oui. Et en fait au produit fini. Et du coup, en faisant l'arbitrage sur les deux trucs, ils disent, mais attends, le pitch, il vient pas de David Mamet, il vient de ce mec-là, donc on va le créditer sur la story.
Et ça nous permet d'ailleurs de sauter sur un truc que vous savez peut-être pas, ou que vous savez déjà parce que vous êtes tous brillants, c'est qu'il y a une différence entre le « et », vous savez, écrit un peu comme « 8 », et le « et » écrit « A-N-D »,« end ». En fait, le « et », quand c'est l'espèce de 8, je ne sais plus comment ça s'appelle ce machin-là, c'est un symbole, ouais. Ça veut dire qu'ils ont écrit le scénario ensemble. Donc Jim et John Thomas sur Predator, ils ont écrit le scénario ensemble. Sur ce film-là, quand vous voyez J.D. Zick and Richard Weiss, ça veut dire qu'ils ont écrit l'un après l'autre. Donc ce tout petit signe a beaucoup de signification sur un générique américain.
Ouais, et ça, c'est donc pareil, c'est en fait une règle imposée par la WGA aussi, ouais. Quoi, pour qu'on fasse la distinction. Quoi. Très bien. Bon, alors, moi, j'ai une dernière question sur le film, parce qu'on a un peu parlé. Et moi, je trouve qu'en fait, ça teinte un peu le truc différemment. Ça ne pousse pas forcément à revoir le film en soi, hein, mais qu'est-ce que tu penses du twist final ?
Alors, attends, j'ai vu le film il y a 3 semaines. C'est quoi déjà le twist final ?
Ah bah, le twist final, c'est... Alors, je spoil, on va dire.
De toute façon, t'es parti.
Les gens le savent. En gros, tout le film s'appelle Ronin. Les Ronins, ce qui t'explique dès le début, c'est que en fait, c'est des samouraïs qui n'ont pas pu protéger leur maître et qui sont dans le déshonneur et qui donc deviennent plus ou moins des mercenaires qui errent de mission en mission, enfin de contrat en contrat.
Très bien expliqué.
Voilà, c'est une scène qui est expliquée dans le film par
Michael Lonsdale
et avec une explication hyper détaillée, puisqu'en fait il a même un petit,
sa petite passion, c'est de faire des maquettes donc d'une scène, voilà. Avec des samouraïs, donc en plus il y a quelques plans sur ce qu'il est en train de raconter. Voilà.
Et donc t'as une conversation entre lui et Robert De Niro sur le sujet. Puisque jusqu'à ce stade du film, et jusqu'à quasiment 5 minutes avant la fin, Robert De Niro, pour toi, c'est un mercenaire. Or, il se trouve que le twist final, et ça je pense que c'est clairement un apport de Mamet aussi, c'est que, en fait, non, il n'est pas mercenaire, il travaille en secret pour la CIA, pour faire tomber, en fait, plus ou moins un terroriste. En fait. C'est pour ça qu'aussi le truc du MacGuffin, on peut se dire, tiens, ça peut être, tu vois, une bombe, ça peut être quelque chose, etc., etc. Puisqu'apparemment, c'est un terroriste irlandais qui essayait de faire, de continuer son œuvre, en fait, pour que les négociations entre l'Angleterre et l'Irlande, en fait, tombent vis-à-vis de l'IRA. Donc, c'est un terroriste de l'IRA. Et en gros, si tu veux, c'est la CIA qui a orchestré tout ce truc, en fait, pour et qui a mis De Niro au milieu pour faire le. Non, tu te rappelles pas de ça ?
Bah écoute, j'ai vu le film 10 fois, mais j'ai jamais pigé ça, je dois être un peu couillon. Donc
ah, c'est le principe en fait, et pour moi c'était l'idée, je pense. Alors je me demande jusqu'à quel point c'est orchestré. Alors, j'ai l'impression que c'est une idée qui peut venir de Mamet, mais qui est une espèce d'ajout un peu imposé, et qui pourrait peut-être aussi expliquer pourquoi il signe sous pseudo. Mm-hmm. Parce qu'il faut savoir que Mamet, c'est un auteur, hein, c'est-à-dire qu'il a vraiment, il est connu aussi pour signer ses propres films, les réaliser, etc. etc. Et donc du coup, il a un petit statut un peu à part dans, comment dire... dans le cinéma américain, même si c'est perdu avec le temps, hein, aujourd'hui, mais en tout cas, il avait ça dans les années 80-90.
Bon, aujourd'hui, ça doit être un septuagénaire, hein, donc il doit être... Oui, je ne sais pas s'il est à la retraite, mais pas loin. D'autant que, comme tous les dramaturges, il fait aussi pas mal de théâtre.
Voilà, et le truc, c'est que pour moi, c'était une idée d'ouvrir sur... Attends, mais en fait, si c'est des mercenaires, les mecs, on ne peut pas faire une franchise. Or, l'idée, à la fin, c'est de garder Reno et De Niro, et plus ou moins partir sur une éventuelle aventure qui n'aura jamais lieu, puisque le film n'a pas rapporté son succès. Et du coup, bah, en fait, je me demandais, mais bon, tu m'as répondu, en fait, si ça, pour toi, ça teintait le reste du film, en fait. Parce que moi, je trouve que, d'un seul coup, t'as les actions de De Niro qui deviennent un poil plus référencibles vis-à-vis de la CIA. Si c'était un personnage sans foi ni loi, ça m'allait, moi, en fait, de me dire j'achète le fait qu'il y ait des innocents qui meurent et ce genre de choses, et c'est pas grave, tu vois. Mais avec un principe où la CIA fonctionne, alors c'est...
Ça reste
ombrageux, hein.
Voilà, ça reste aussi intéressant de dire que un agent, quel qu'il soit, a le permis de tuer et qu'il s'en sert et que c'est la fin avant les moyens.
Mais c'est plus un Ronin.
Mais c'est plus un Ronin.
Voilà. Donc il y a une petite contradiction, je trouve, avec le titre d'origine, ce qui t'est vendu depuis le début et ce que t'obtiens à la fin. C'est pas très grave parce que fondamentalement, comme tu l'as dit, c'est un truc qui est appuyé en trois mots et une phrase finale en fait dans le café, quoi. Tu vois. Donc voilà. Mais
de toute façon, je trouve globalement c'est un film que j'adore, honnêtement. J'ai juste moi la dernière scène me plaît moins. Le zénith en fait. À partir du moment où le zénith arrive, je trouve que ça fait partie de ces films où tu te dis ils auraient peut-être dû finir un petit quart d'heure plus tôt, que ça aurait pas fait de mal. Ça commence à traîner un tout petit peu en longueur.
Moi, ce que j'aime bien dans cette scène, alors c'est un détail, hein, mais en fait, je trouve qu'il y a cette espèce de truc. On tape souvent sur Jean Reno. Mais mine de rien, en fait, moi j'aime bien Jean Reno. J'ai un vrai truc avec lui, en fait, où je sais qu'il a fait plein de films de merde, hein, et je sais qu'il se fait pas, il se la foule pas trop non plus, hein, par la plupart du temps. Mais j'ai toujours trouvé qu'il avait une approche assez humaine de ses persos. Et mine de rien, c'est quand même servi là-dedans. Il y a notamment en fait un détail, mais que je trouve hyper touchant, en fait, qui fonctionne assez bien, c'est qu'il connaît le mec en fait qui est en train de garder la porte sur laquelle ils veulent passer, et il dit à De Niro, vas-y. Enchaîne-le parce que moi je pourrais pas vivre avec moi-même si. Voilà. Et en fait, ça a beau être un mercenaire, le personnage, ça a beau être tout ça. Il a un code d'honneur, il a un code de morale, en fait, qui ressort avec ce genre de petits détails. Et qui, pour moi, je trouve, ressemble vachement à Jean Reno, en fait, en soi. Et du coup, je trouve que c'est un film qui exploite bien le personnage. Et enfin, l'acteur, Jean Reno, on va dire. Et je le trouve plutôt. Enfin, ça va, c'est cool. Parce que, par exemple, t'as d'autres films comme Godzilla ou ce genre de choses de Roland Emmerich pour parler de films américains sur lesquels. Ou même.
Il mâche le chewing-gum à merveille dans voilà. Godzilla. Non, je
même, j'allais dire, même j'allais dire Mission Impossible, même si, bon, moi j'adore Mission Impossible de Palma. Hein, mais il est utilisé comme une brute, on va dire, dans ce film. Quoi. Voilà, il y a un côté comme ça qui fonctionne plutôt bien et je trouve que leur relation avec De Niro est plutôt sympa aussi. Quoi.
Bah, c'est. On peut pas dire
et
le cœur.
Ça ressort un peu dans cette scène, c'est ça que je voulais dire.
On peut pas dire le cœur émotionnel parce que, bon, c'est pas un film très émouvant non plus. Mais globalement, ce sont les deux personnages les plus humains du film. Et d'ailleurs, la scène avec Michael Lonsdale dont tu parlais tout à l'heure, c'est presque une virgule au sein du film. Mmh. C'est presque une pause. Et elle reste super intéressante parce qu'elle raconte un truc au final qui est très humain. Elle raconte aussi ce que sont ces personnages et ce que signifie le titre. Parce que c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde ce que c'est qu'un Ronin. Surtout en 98, moi, quand j'allais voir le film, je savais pas. Maintenant, je sais. Hein. C'est aussi parce que la culture s'est mondialisée, donc on connaît un peu plus la culture japonaise. Mais c'est une très jolie scène, je trouve, la scène avec Michael Lonsdale.
Ouais, et puis il y a cette notion qu'il se prend une balle et en fait, il y a tout un rituel autour de ça pour arriver à la sortir et que c'est pas si simple que ça, en fait, dans cet univers-là, de se prendre une bastos, contrairement à ce que tu peux voir dans les films américains. Mais je pense que ça participe aussi beaucoup de l'aspect un peu âpre du film et la volonté de revenir à un cinéma des années 70, ce qui est bon pour moi pas totalement réussi, mais qui en fait finalement avec le temps donne une patine un peu intemporelle qui fonctionne. Et donc moi je suis assez satisfaisant. Quoi.
Pour toi, qu'est-ce qui manque pour que ce soit un vrai film des années 70?
Je pense en fait que les films des années 70 avaient à l'époque où ils sont sortis une sophistication, tu vois, et une dureté qui était beaucoup plus... voilà, là on est quand même dans les années 90, donc en fait il y a un vrai retour avec un... Mais c'est plus, je trouve, une... Déjà parce que je pense que même Frankenheimer, comme tu as raison hein, de dire que c'est un de ses meilleurs films de la fin de sa carrière, surtout si on termine sur Piège Fatal qui était vraiment
Piège Fatal, Piège Fatal après et L'île voilà. Docteur Moreau avant, c'était pas dur. Hein.
Ouais, Docteur Moreau, c'est à part. Mais sur Piège Fatal, non mais c'est à part, il l'a même pas fait exprès limite, tu vois. Mais sur celui-là, en fait, il y a quand même ça restait quand même maintenant un vieux monsieur qui a quand même eu la patate dans certaines scènes et tout ça. Mais qui n'a plus, on va dire, la dureté qu'il pouvait avoir dans les années 60-70, des films comme Un crime dans la tête, Seconds, où c'était quand même assez psychologiquement très fouillé, et en même temps complètement, limpide, direct, pas direct, mais en tout cas clair, etc., dans la narration. Et là, je trouve que, en fait, je me disais, ok, c'est un film assez simple, assez classique, il lui a apporté une certaine patine, mais il ne peut pas aller non plus jusqu'au... Voilà, c'est-à-dire... Le terme sophistication est un peu poussé, mais j'ai toujours eu le sentiment, et en le revoyant là, parce que je l'ai vraiment revu hier, en fait, pour l'enregistrement de ce podcast, je me disais, il manque un truc dans ce film, pas grand-chose, mais il manque un truc, et c'est pas grave, tu vois, ça reste maintenant, il faut accepter, mais à l'époque, le film a été vendu comme un peu plus que ce qu'il est, quoi, et c'est ça qui était, c'est ça qui m'est toujours un peu resté dans l'esprit, en fait, en me tapant ce film-là. J'aime bien, je trouve ça plutôt, on le recommande hein, d'ailleurs, mmh, hein, là, en l'occurrence, voilà. Mais c'est vrai que je me disais, bon, qui je préfère me taper French Connection ou.
Ah bah
ou,
oui, voilà. En même
non,
temps.
Mais, non, non, mais d'accord. Mais
tu vois, je préfère me taper French Connection parce que c'est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, point barre.
Certes.
Mais je préfère me retaper Ronin que French Connection 2. Parce que French Connection 2 est un film ultra intéressant.
De Frankenheimer
en plus, où il y a cet Aprotée dont on parlait, qui est aussi tourné en France, puisqu'il se passe à Marseille, mais que je trouve rythmiquement beaucoup moins maîtrisé.
Mais c'était plus intrinsèque. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, je pense aussi, c'est que je pense que c'était beaucoup plus dans l'air du temps. Et là, je pense que chez Ronin, il fallait un petit peu aller le chercher. Et du coup, en fait, tu sens qu'il y a un travail sur ça. Tu sens que c'est pas idiot d'aller chercher Frankenheimer pour faire ça, mais qu'on est quand même dans un, on va dire, une version un petit peu, le terme est un peu méchant, mais c'est pas vraiment la volonté d'être méchant avec ce film-là, un peu plus délavé, on va dire, que un peu plus Canada Dry, on va dire, que French Connection 2. Après, on peut considérer que l'un est meilleur que l'autre, hein, dans l'absolu, mais disons qu'en tout cas, je le trouve ça plus organique et plus sincère dans French Connection 2, en fait.
C'est sincère, carrément, ouais. D'accord.
Quand je parle de sincérité, c'est vraiment, en fait, c'était l'air du temps. Et ça s'en est bien sorti, alors que là, on recherche cette ère du temps-là qui date d'une autre époque, quoi. Mais ouais, bon, ben, bref, on rentre dans des trucs, c'est très surfait. Donc, on recommande Ronin.
On recommande Ronin. En plus, c'est un film qui n'est pas ultra difficile à voir, puisqu'il se trouve en Blu-ray sans aucun problème.
Sur Netflix, en fait.
C'est possible, je t'avoue, je n'ai pas regardé, vu que j'ai le Blu-ray à la maison. Ouais. Mais le Blu-ray, non seulement le Blu-ray est disponible, mais en plus, il coûte vraiment que dalle. Hein. Tu le trouves pour 10 balles à peu près partout. Il est peut-être sur Netflix, il est peut-être sur Amazon Prime, ça, je ne sais pas du tout.
Je n'ai pas vérifié non plus, je te vois.
Voilà, bon, ben voilà, on a bien
fait. J'ai le Blu-ray, en fait, on a le Blu-ray, donc on a regardé le
Blu-ray. On a juste glissé le truc. Enfin, c'est pas un film difficile à voir. C'est malheureusement un film qui s'oublie un peu, qui s'oublie au sens le temps est en train d'oublier, pas moi.
Ah, tu trouves ? Bah, c'est marrant parce que j'ai quand même l'impression que les gens le citent pas comme un classique hein, ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même l'impression que c'est le. Alors moi, ce que j'allais dire, c'est le film à papa, quoi. C'est-à-dire que et sans, encore une fois, sans mauvaise, sans volonté négative, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté où ce genre de film. Je pense que, je sais pas pour toi, hein, mais en fait, moi, mon père, je peux pas lui montrer Matrix, tu vois. Mais peut-être je peux lui montrer Ronin. Je lui dis, ah, ce soir, on regarde Ronin. Il faut, oh, ok. Et en fait, du coup, c'est simple. Et je pense qu'il y a un côté vieux jeu dans le film,
ouais.
Mais qui est un petit peu volontaire. Qui
ah, bah, qui est absolument
assumé. Et
qui,
du coup, en fait, fait que c'est le genre de truc qui peut passer à la télé assez facilement, assez régulièrement.
C'est ce qui fait. C'est presque l'une de ses forces en même temps que ses faiblesses. C'est-à-dire que la volonté de faire un film façon années 70 fait à la fois que, bah oui, c'est un film de vieux, mais en même temps, c'est un film qui vieillit très bien. Parce qu'il a jamais été dans une époque, en fait.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas forcément un film de vieux à l'époque où il est sorti.
C'est vrai.
Voilà. Mais bon, voilà. Bref. Donc merci, Julien.
Bah de rien.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Alors moi, je vais vous préciser que là, on est. Alors si vous êtes tipeur, vous écoutez ça lundi. Si vous n'êtes pas tipeur, vous écoutez ça mercredi. Et samedi, en fait, on fait une séance qui s'appelle la séance Capture Mag. On sera tous présents. On présentera au Club de l'Étoile le Festin chinois, le film de Tsui-Hark. Et donc vous pouvez prendre vos places sur internet, je pense que si vous tapez les mots clés Festin chinois, Capture Mag, Club de l'Étoile, je pense que vous allez tomber dessus, normalement, si Google ne vous méprend pas. Donc voilà, bah écoutez, si vous voulez nous suivre, rejoignez-nous. Tissu, tu voulais dire.
Ouais, sinon on fait comme d'hab, en fait, tu oublies complètement de remercier Alain la technique.
J'oublie toujours de remercier Alain la
technique.
D'accord,
donc merci Alain la technique.
Voilà, je fais comme ça, quoi. Et merci donc, je remercie du coup de nouveau, merci, je repenche. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre film et vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux habituels. Donc alors. On a nos pages Facebook, nos pages Instagram, nos pages Twitter comme d'hab. Mais aussi, vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, sur Spotify, sur Deezer, sur toutes ces plateformes formidables qui ont révolutionné notre façon d'écouter les podcasts, et notamment les nôtres, hein, surtout. Et moi, je vous dis à la prochaine fois.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.